Les grands événements du Collège de France.
Bonsoir à tous. Le temps a changé un petit peu mon discours, mais merci à vous d'être venus malgré les intempéries. Et deuxièmement aussi, merci aux intervenants d'avoir accepté de venir aujourd'hui pour débattre de cette première thématique qui sera donc communiquer la science, donc les liens entre communication, science et surtout résultats scientifiques. En fait, ça va s'inscrire dans une série de tables rondes qui auront lieu tous les mois de mai et au début du mois de juin. Donc 5 tables rondes sur des sujets très différents que vous pourrez retrouver sur le site internet du Collège de France, et qui se conclura donc le 3 juin sur la question des migrations climatiques, puisque évidemment le thème général étant le futur en héritage, c'est la question de comment faire société face à un dérèglement climatique de plus en plus marqué. Et simplement aussi pour terminer, je souhaitais remercier tous les étudiants, et en particulier Henri et Zoé, qui sont particulièrement investis dans l'organisation de cet événement, puisque justement depuis quelques années, en particulier à travers Avenir Commun Durable, le Collège de France a vocation à renforcer le dialogue intergénérationnel. C'est vrai face à toutes les crises, c'est encore plus vrai pour la crise climatique où, depuis au moins les accords de Paris et même avant, la question de la responsabilité des générations passées par rapport aux générations actuelles et à venir a toujours été posée au centre du débat. Et c'est pour ça que ça nous semble important que le Collège de France soit ce lieu où, en accompagnant évidemment les étudiants du supérieur, on leur propose la possibilité de proposer leur sensibilité sur des sujets et sur cette thématique-là, sachant qu'ils vont vers des directions que nous n'aurons pas forcément empruntées nous-mêmes spontanément. Donc merci à eux pour leur investissement. Et sans plus tarder, je leur laisse la parole. Merci.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus ce soir, malgré le temps absolument déplorable. Nous sommes très heureux d'accueillir donc ici Agnès Despoux et Franck Ramu pour cette première table ronde de ce nouveau cycle que nous ouvrons cette année. Nous sommes très heureux de revenir et d'avoir une parole qui nous est accordée pour discuter de sujets qui nous plaisent et qui nous concernent, nous, jeunes en tout cas, pour l'avenir. Et sans plus tarder, je vais donc commencer une petite présentation, puisque nous vous présentons dans chacune de ces tables rondes pendant une dizaine de minutes les sujets, ce qui va être discuté en tout cas. Puis ensuite, nous ouvrirons les discussions avec les intervenants. Il y a un réflexe assez intuitif quand on pense à communiquer la science, quand on parle de défiance envers la science et surtout sur les questions climatiques. Le premier réflexe est presque toujours le même. On se dit qu'une personne qui va avoir une information scientifique ne va pas comprendre et va avoir donc elle ne comprenne pas la science, et c'est pour ça donc qu'elle remet tout en question. Cette idée a même un nom dans la littérature, le fait que donc la personne ne s'inquiète pas assez par rapport au futur climatique, c'est la science comprehension thesis. Je vais appeler ça donc la SCT en fonction des articles que nous allons présenter juste après. Et l'implication paraît évidente. Il suffirait donc de mieux expliquer, de mieux vulgariser, de mieux former, et tout finirait par s'améliorer et par s'aligner. C'est l'hypothèse historique, en tout cas, qui a caractérisé pendant des dizaines d'années la situation actuelle. Le problème, c'est que les recherches récentes, et notamment celles que je vais vous présenter juste après, de Dan Kahan, ont mis ces hypothèses à mal, parce que, contrairement à ce qu'on pense, le niveau de littératie n'influe pas, et justement il influe à l'inverse sur la position par rapport au changement climatique. Donc en 2012, Dan Kahan et son équipe publient une étude relevée avec 1540 adultes américains, représentatifs, donc, et ils trouvent deux résultats qui vont à l'encontre de ce qu'on pensait. Le premier résultat, la perception du risque climatique, elle diminue légèrement quand la culture scientifique augmente, ce qui est assez troublant, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, vous pouvez voir en fonction de la quantité de sciences littéraires, donc la littératie et donc la numératie. Donc je rappelle rapidement, la littératie sont les aptitudes à comprendre et à utiliser l'information de tous les jours afin d'atteindre des buts personnels et d'étendre donc ses connaissances. Et la numératie est donc la capacité à utiliser, à appliquer, à critiquer des chiffres qu'on utilise au quotidien afin d'interagir tous les jours dans la société. Le deuxième résultat est plutôt le plus intéressant ici, la polarisation donc, entre les groupes culturels, que Kahn appelle ici les hiérarchistes individualistes, comme vous pouvez le voir, ou les égalitaristes communautaires, augmente avec la littératie scientifique, elle ne diminue pas. Vous le voyez sur le graphique à droite, donc ici. Les deux courbes s'éloignent quand on va vers des niveaux d'instruction les plus élevés. La conclusion de Kahn est donc c'est qu'on n'a pas affaire à un déficit de compréhension, c'est un conflit d'identité culturelle. Donc je vais rapidement revenir sur la SCT et la CCT qu'il propose dans cet article. Il s'agit donc, comme vous pouvez le voir, avec une prédiction, comme notre hypothèse classique, c'est que le public sous-estime le risque par manque de connaissances. Donc quand la littératie augmente, la polarisation devrait logiquement diminuer. Eh bien, c'est tout l'inverse dans cette notion qui a été introduite par Kahn. Kahn, c'est la cultural connection thesis. C'est que le public, donc, quand on a quelqu'un qui va avoir une littératie qui va augmenter, ça va justement le conforter dans ses positions. Et donc, sa polarisation va augmenter parce qu'il va chercher ses arguments pour pouvoir se justifier lui-même et argumenter donc son propre camp. Donc, c'est ce dont Kahn parle dans l'article, d'une traduction à peu près approximative, c'est d'une tragédie des biens communs de la perception du risque. Ensuite, je vais me pencher rapidement sur le cas français, qui a été ici relevé par Nomur et Payard. Alors, c'est un article qui date un petit peu depuis 2006, puisque maintenant les choses ont bien changé, mais ça reste quelque chose de très intéressant. C'est que les données du CVPOF qu'il mobilise sont parlantes. La part des Français donc, qui pensent que la science apporte plus de bien que de mal passe de 56% à 45% entre 73 et 2000. Et ce sont c'est la spécificité française, excusez-moi. C'est une succession de crises, notamment, qui ont été marquées. Comme vous pouvez le voir ici, comme on a affiché, la crise de la vache folle, qui a énormément marqué les années 90 jusqu'à assez tard. Et ce qui suscite d'autant plus de méfiance, non pas par la science elle-même, mais parce qu'elle a une relation avec le monde économique, donc tout ce qui est OGM, vous voyez très bien où nous voulons en venir, et au monde politique. Et justement, ce monde économique, nous allons l'approfondir avec des petits cas qui sont très parlants pour vous, notamment sur la salle suivante.
Donc Namur et Payard vont même un petit peu plus loin, et ils ont identifié un mécanisme assez précis, donc qu'ils appellent la communication par les promesses. En gros, sous pression budgétaire, les chercheurs sont forcés de développer des stratégies promotionnelles auprès des financeurs publics, mais majoritairement d'acteurs privés. Et cette communication, elle s'appuie sur deux ressorts qui sont assez systématiques. Donc le premier, ça sera la présentation d'applications spectaculaires. Et le second, ce sera la présentation aux potentiels investisseurs des chiffres de marché vertigineux. Donc l'exemple le plus emblématique de cela, ce sont les nanotechnologies, où on faisait miroiter un marché à plus de 1 000 milliards de dollars en 2007 pour l'année 2015, et au fur et à mesure, ça a été révisé à 100 milliards de dollars en 2010. Et donc les effets pervers sont plutôt faciles à comprendre. Les promesses non tenues décrédibiliseraient le discours scientifique. Le fait de communiquer uniquement sur les bénéfices sans évoquer les risques, ça pourrait nourrir des soupçons de censure. Et la présence évidente de certains concepts assez flous, le terme nano en est un exemple, qui relève en réalité davantage d'une logique de marketing que d'une logique scientifique. Malgré tout cela, on pourrait se demander où en est-on aujourd'hui ? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la confiance envers la science, notamment la science environnementale, ne s'est pas effondrée mondialement. Les données du World Economic Forum de 2021 sont assez frappantes. En effet, on a à peu près 68% du public mondial qui déclare faire confiance beaucoup, voire énormément, aux scientifiques sur l'environnement, contre 57% en 2019. Donc on remarque quand même une augmentation certaine. Et si en plus à cela on ajoute la confiance modérée de la part du grand public, on atteint quand même 93% de confiance au niveau global, ce qui est une large majorité. Donc l'idée d'une crise généralisée de la confiance n'est pas vraiment étayée empiriquement. Mais, et c'est quand même le mais très important, c'est que la défiance d'une minorité, et notamment cette minorité lorsqu'elle se retrouve dans des sphères de pouvoir, de décision, elle peut suffire à bloquer toutes les actions politiques qui peuvent être envisagées pour résoudre, là en l'occurrence, la crise environnementale. Typiquement, un exemple assez frappant, c'est la première puissance mondiale, donc l'Amérique du Nord, qui fait justement partie des plus sceptiques, comme vous le voyez, avec 58% de la population. Et l'administration Trump actuelle, je pense, en est un très bon exemple. Donc on pourrait se demander un petit peu plus précisément qui sont ces sceptiques et surtout pourquoi le sont-ils. Donc une étude assez récente de Rumse, qui a été publiée vraiment très récemment, en l'occurrence en 2025, sur 26 pays et avec un peu plus de 10 000 personnes, un échantillon de 10 000 personnes, donne une réponse qui est quand même assez nette. Donc le profil dominant, c'est les conservateurs anglo-saxons, notamment aux États-Unis, et c'est un peu moins marqué ailleurs. Donc, on pourrait aussi penser que la religiosité influe beaucoup sur la moyenne du crédit accordé aux scientifiques par le grand public. Et en fait, l'effet est assez faible, sauf chez les chrétiens évangéliques américains. Et enfin. Et les raisons que les sceptiques eux-mêmes invoquent, elles sont assez constantes. Donc généralement, c'est un alarmisme perçu de la part des scientifiques, des biais qu'ils attribuent au financement de la recherche, notamment avec des conflits d'intérêts, une incohérence entre le discours des scientifiques et leur comportement dans la sphère privée, une forme de dissonance cognitive peut-être, et un manque de transparence sur les données communiquées. Donc pour donner un ordre de grandeur, globalement, 7% de la population mondiale a peu, voire pas du tout confiance, mais en Amérique du Nord, ce chiffre double, enfin même plus que double, puisqu'il monte à 16%.
Je vais enchaîner rapidement sur le clivage, donc on peut maintenant s'intéresser au clivage politique, clivage gauche-droite, qui nous intéresse, je pense, tous ici. Ici, dans cette étude qui a été publiée, donc toujours la même étude par RMSE en 2025, vous pouvez voir ici ce graphique, donc dans les pays anglophones. Vous avez, alors retenez juste, pour qu'on fasse très clair sur ce graphique qui peut paraître un peu compliqué au début, retenez juste l'échelle numéro 1, donc en verte, et l'échelle sur le petit point numéro 7, donc en marron. Le petit point numéro 1, donc, montre une très grande méfiance envers tout ce qui est climatique, et donc les scientifiques du climat. Et vous pouvez voir ici que dans les pays anglophones, donc il y a c'est très marqué le fait qu'il y a une grande méfiance à droite du spectre politique, puisque ici sur cette échelle vous avez en positif donc les partis qui sont plutôt de droite jusqu'à l'extrême droite, et ici de gauche jusqu'à l'extrême gauche. Voilà. Donc vous avez aussi ici en marron, qui est donc à l'inverse, des personnes qui font entièrement confiance envers la science du climat, et ici vous montez donc avec des donc une probabilité de choisir, donc enfin une probabilité de confiance qui est très élevée, et c'est une tendance qui se retrouve un peu dans les pays non anglophones. Vous avez notamment donc cette courbe vers la gauche de l'échiquier politique qui est assez signifiante, et en fait à droite vous avez un mouvement qui est un peu moins fort, et ici vous pouvez à nouveau vous doutez que c'est souvent affilié donc à certains mouvements qui sont arrivés au pouvoir et qui ont provoqué, notamment par des biais de lobbyistes, des clivages aussi plus importants, en tout cas que dans les pays non anglophones, dans les pays donc tels que les États-Unis ou l'Angleterre. Ensuite, donc je vais aller rapidement sur les quatre piliers de la trustworthiness. Donc c'est maintenant, si on se demande sur le fond la confiance envers un scientifique, la littérature en fait elle se tourne autour de quatre dimensions, comment elle est caractérisée. Il y a donc, c'est la compétence, donc l'expertise est démontrée par rapport à comment on qualifie un scientifique, son ouverture, sa transparence sur les financements, les données, les incertitudes, son intégrité, donc la cohérence entre les paroles et les actes, son empreinte carbone qui est très importante puisqu'un public va accepter qu'on lui donne des choses ou des recommandations à partir du moment où la personne en face donne l'exemple, montre l'exemple, ce qui est parfois essentiel puisqu'on remet en cause beaucoup de scientifiques à cause de ça. La bienveillance également, c'est-à-dire de ne pas mépriser, mais aussi d'agir dans l'intérêt qui soit économique, et aussi parce que les gens, quand ils vont se sentir visés, les gens en général vont donc se se sentir d'abord visé par avoir leur propre cause avant la cause de la communauté, puisque quelque chose comme le climat est une notion très très floue pour la plupart des personnes.
En outre, on pourrait se poser une autre question. Un scientifique qui s'engage politiquement perd-il en crédibilité ? L'idée qu'on pourrait avoir, ça serait plutôt oui. Mais les données, notamment de l'étude de Colonia, donc très récente, qui est sortie en 2024, racontent quand même une autre histoire. Donc en général, l'engagement respectueux pour l'action climatique, il n'affecte pas vraiment la crédibilité que le grand public accorde aux scientifiques du climat, et il peut même la renforcer. Mais l'effet varie quand même beaucoup selon la politique que défend le scientifique en question. Donc s'il s'agit d'une politique qui plaide pour des mesures consensuelles, ça va plutôt renforcer la crédibilité accordée par le grand public. En revanche, s'il s'agit de mesures controversées, notamment par exemple le nucléaire, là ça peut vraiment avoir un impact pour diminuer le crédit accordé par le grand public. Donc la clé qui ressort de toutes ces études, c'est qu'il faut maintenir une distinction claire entre les affirmations strictement scientifiques et les affirmations politiques, voire opinions personnelles. Donc pour clore cette introduction, peut-être sur une question un petit peu plus théorique, on peut s'appuyer sur une typologie qui a été proposée par Roger Pilke en 2007. Ça commence à dater un petit peu dans son livre qui s'appelle « The Honest Broker ». Donc Pilke qui distingue quatre postures vraiment idéalisées que peut adopter un scientifique en démocratie. Donc la première, c'est le « pure scientist », qui est un chercheur qui est entièrement déconnecté des décideurs, qui ne se pose pas tellement la question des aboutissements, des applications concrètes de son travail, et qui se contente de verser ses résultats dans ce que Pilke appelle une sorte de réservoir de savoir dans lequel chacun peut venir piocher. Le deuxième, c'est le science arbiter, qui reste à l'écart de la politique, mais qui peut accepter de temps en temps de répondre aux questions des décideurs, mais seulement aux questions positives, donc c'est-à-dire factuelles et pas normatives, qu'on lui pose. Le troisième, c'est l'issue advocate, donc qui met sa science au service d'un objectif politique précis et de se faire restreindre volontairement le champ des choix possibles pour mener une action politique derrière. Et enfin, le quatrième, c'est l'honest broker, qui donne son nom au livre, et qui intègre les connaissances aux intérêts des différents acteurs pour élargir et clarifier le champ des options. Mais du coup, il va proposer de nombreux scénarios, et ça va être aux décideurs de décider. Donc, aucune de ces postures n'est neutre, et justement, et aucune n'est non plus intrinsèquement meilleure que les autres. Donc, ça va être tout l'enjeu du débat de ce soir. Donc pour commencer, on va vous poser une question, monsieur Ramu. Je demandais, si on prend au sérieux justement les quatre positions idéalisées du scientifique de Pilke, l'honest broker, il doit élargir le champ des options, y compris des options qu'il peut trouver mauvaises. Est-ce qu'un chercheur peut vraiment intellectuellement défendre des options qu'il jugerait inefficaces ou immorales, ou est-ce une posture intenable en pratique ?
Alors, je découvre cette typologie, et en vérité, je ne suis pas bien sûr de comprendre précisément ce qu'est censé faire le honest broker là-dedans. Science arbiter, je vois bien, ouais. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire, enfin, ouais, intégrer les connaissances aux intérêts des acteurs pour élargir et clarifier.
C'est quelqu'un qui va donc directement se retrouver à considérer tous les acteurs, qu'ils soient politiques, économiques, autour, c'est-à-dire que quand il va prendre une décision, il va prendre dans son champ de vision toutes ces personnes qui peuvent avoir des intérêts à droite et à gauche.
Disons, les prendre en compte, ça, ok, je vois, ça me paraît pas un problème, mais qu'est-ce qu'on en fait, en fait ? Est-ce qu'on est censé modifier le discours qu'on a sur des sujets factuels scientifiques en fonction des opinions de ces parties prenantes ou pas ? Enfin, ouais, je... Pour moi, c'est pas hyper clair ce que cette catégorie est censée faire.
Oui, je comprends tout à fait par rapport à ça. C'est justement par rapport à des personnes qui se retrouvent dans des positions assez ambiguës du fait de prendre plusieurs facteurs en considération. Je comprends tout à fait par rapport à ça. Et donc, si on revient sur le point de vue plutôt d'une association que donc, si intellectuellement il faudrait défendre des opinions, selon vous, faudrait-il il y avoir donc une position plutôt tranchée, une position finalement, puisque on parle souvent des scientifiques qui sont inaccessibles dans leur discussion et dans leur discours. Est-ce qu'il y a un moyen donc, il y a un profil autre que ceux qui sont présentés ici qu'il faut adopter pour que l'opinion publique finalement accepte qu'un scientifique parle et cette fois parle en leur nom et en leur avenir.
Ben disons, moi j'adhère à ce qui avait été dit précédemment sur le fait que bon, un scientifique peut militer, bien sûr, comme tout citoyen, mais ce n'est pas exactement la même posture et c'est bien de clarifier à quel titre on s'exprime finalement. Quand on est en train de militer en affichant qu'on appartient au CNRS, on est en train de confondre un petit peu les genres finalement et d'essayer de donner une crédibilité scientifique à un point de vue personnel. Et c'est là que ça devient un petit peu délicat à mon sens. Après, ça ne veut pas dire que... Donc, moi, je me positionnerai plutôt du côté du science arbiter, c'est-à-dire si je m'exprime en tant que chercheur et au nom des institutions qui me financent, j'aurais envie de m'exprimer uniquement sur les questions scientifiques et factuelles sur lesquelles la science a vraiment quelque chose à dire. Ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas interagir avec les valeurs, mais ça veut dire que donc on peut dialoguer avec des gens qui ont différentes valeurs, différentes visions normatives du monde et leur dire, ben voilà, si c'est ça vos valeurs, si c'est ça le but que vous voulez atteindre, alors les connaissances scientifiques vous disent que le moyen le plus efficace pour y parvenir, c'est telle ou telle méthode, par exemple. Et à l'inverse, si vous avez d'autres valeurs, eh ben, voyez, voilà d'autres moyens pour y parvenir. On peut mettre la science au service de l'action politique, au service de l'accomplissement de certains objectifs, mais sans pour autant nécessairement devoir prendre soi-même parti pour telle ou telle valeur ou objectif.
Ajouter quelque chose ? Ouais. Bon, effectivement, peut-être en disant de là où je me situe, hein, je suis chercheur en sciences de l'information et de la communication, et mes domaines de recherche se situent autour du changement climatique, donc plutôt une approche en santé planétaire, puisque je m'intéresse à l'articulation entre santé et climat et la manière dont on peut engager les populations en fait dans la lutte contre le changement climatique. Dans les recherches que l'on conduit, et notamment au sein d'instituts de santé globale, puisque c'est là où j'élabore mes recherches, on a aussi... En fait, le chercheur peut aussi avoir ce rôle de venir présenter ses travaux dans des sphères qui sont des sphères publiques. Je pense par exemple aux conférences pour le climat. Donc on a en tout cas dans notre laboratoire pour habitude d'aller organiser des side events dans ces lieux qui sont des arènes publiques et aussi quelque part politiques pour présenter les travaux et quelque part avoir un rôle qui pourrait permettre de faire bouger les lignes. Et ça me paraît être aussi une catégorie qui permet à la fois de développer ses recherches avec toute l'intégrité qu'on veut y mettre, et en même temps de pouvoir intervenir quand même dans la sphère publique, tout en pouvant réaliser ses recherches de manière complètement indépendante.
Très bien. Donc justement, si un jeune chercheur vient vous voir et qu'il vous demande aujourd'hui de quelle manière est-ce que je peux m'engager, est-ce que ça vaut le coup de s'engager, et surtout où, et vous lui répondriez donc d'aller directement s'engager comme
donc vous disiez d'aller directement participer à des conférences, choses comme ça, et de promouvoir. Mais est-ce qu'il n'existe pas des moyens directement pour aller en contact, puisque c'est à la fois des langages qui sont très difficiles à se dire pour une bonne partie de la population, donc il faut avoir une certaine vulgarisation. Et donc j'arrive finalement au fait que comment vulgariser, comment est-ce que vous entreprenez l'approche avec des personnes qui ne sont pas du tout, qui n'ont pas l'information que nous, en tout cas, scientifiques, nous avons en main. Est-ce que vous avez, par rapport à ça, une question, enfin une suggestion sur l'engagement pour les jeunes ?
Pour les futurs jeunes chercheurs ? Oui. Je pense que la recherche est encore un espace très enrichissant, et justement parce qu'on peut, par la recherche qu'on conduit aujourd'hui aussi, intervenir dans des sphères qui permettent de faire évoluer la société. Et ça me paraît effectivement très intéressant. Et je dirais que on peut exercer la science sans chercher à vulgariser, ou en tout cas à simplifier, en fait. C'est pas du tout l'idée. On peut tout à fait développer sa recherche et continuer à la présenter avec aussi toutes les nuances et toute la complexité, en fait, qu'elle requiert.
Qui est donc une proposition en tout cas d'augmenter donc la culture scientifique en général. Et je voulais venir par rapport à Monsieur Ramieux donc sur tout ce qui est question de l'esprit critique que vous défendez donc depuis longtemps l'enseignement. Caron suggère tout de même que ça ne suffit pas, au contraire, ça pourrait renforcer une sorte de polarisation. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette prise de position de Caron dans son étude?
Je suis d'accord que l'accès à l'information ne suffit pas, ça c'est clair, et tout ce que vous avez exposé auparavant, le fait que les gens déterminent leurs croyances, leurs opinions en fonction de critères qui ne sont pas justes, l'information à laquelle ils ont accès, ça c'est totalement acquis, hein, bien sûr. Donc oui, la bonne information scientifique fiable, la culture scientifique, tout ça, ça ne suffit pas, mais c'est quand même des conditions importantes, on ne va pas y renoncer quand même. Parce que ça serait quoi l'alternative? Qu'on fournit de la mauvaise information? Non. Donc oui, bien sûr, il faut continuer à éduquer, il faut améliorer la culture scientifique des citoyens, des dirigeants aussi. Tout ça, ça peut aller que dans le bon sens. Mais effectivement, il faut être conscient que ça ne suffit pas et que les gens vont aussi construire leurs opinions en fonction d'autres critères qui sont des critères d'appartenance à des groupes auxquels ils s'identifient et qui se fédèrent justement autour de croyances communes.
Très bien. Et donc, si je reprends par rapport à vos recherches pour vous, Madame Despoux, vous avez analysé donc les couvertures médiatiques du climat. Qu'est-ce qui a vraiment changé, je vais poser cette question maintenant par rapport au plus large, qu'est-ce qui a vraiment changé ces quelques dernières années, par rapport notamment à l'influence qu'ont pu avoir les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous avez observé? Est-ce qu'il y a du mieux en moins? On a beaucoup, quand ça nous vient en tête tout de suite, énormément de vulgarisateurs, je reviens à vulgarisation bien sûr, mais de gens qui prennent de plus en plus de place. Notamment on pense aux influenceurs sur les réseaux sociaux ou des journalistes sur les réseaux sociaux aussi, comme on revient tout de suite à l'idée Hugo Travers. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de tout ça par rapport à la couverture médiatique, parce que est-ce qu'il y a une augmentation de la scepticité par rapport à tout ça, ou est-ce que c'est justement au contraire, ça agit en positif et en bien?
Alors moi je me suis intéressée plus particulièrement à la couverture médiatique dans un quotidien, le journal Le Monde, et notamment à l'évolution du lien qu'on établit entre santé et climat, justement, parce que on a beaucoup parlé du climat, évidemment, comme une question environnementale, mais le déplacement qui permet en fait de faire le lien entre le changement climatique et ses impacts sanitaires, a été assez lent en fait à se mettre en place. Et justement, ce qu'on a pu observer, c'est que la COP21 qui a eu lieu à Paris a été un marqueur très important. Il y a eu dans le traitement médiatique quelque chose qui s'est ouvert. Il y a eu l'ouverture d'une fenêtre médiatique parce que pendant cette COP-là, justement, on a clairement indiqué les liens entre changement climatique et santé. Et c'est quelque chose dont les journalistes se sont imprégnés progressivement, notamment aussi parce que en Grande-Bretagne, le Guardian s'est positionné aussi pour un traitement, je dirais, journalistique qui favorise aussi le traitement des questions environnementales et progressivement ce lien entre santé et climat. Et on voit que ce lien se renforce de plus en plus. Et c'est assez intéressant parce que ça met en évidence le fait que le climat n'est pas juste une question environnementale, une question climatique, et je dirais qui, pour une partie de la population, peut rester très abstraite, mais qu'elle a aussi des enjeux sociaux très importants, notamment en impactant notre santé et notre environnement quotidien.
Vous avez évoqué le traitement médiatique, notamment à partir de la COP21. Si je reprends, il me semble, les propos de sortie de l'étude de Kahan, il avait tendance à dire que les discours alarmistes avaient tendance plutôt à refroidir le public, voire à décrédibiliser peut-être, enfin, à confirmer, on va dire, l'inertie, que ce soit dans les actions individuelles ou même politiques. Et on constate quand même que les récits catastrophistes et solutionnistes sont souvent opposés lorsqu'on vulgarise la crise écologique dans les médias. Selon vous, y aurait-il une troisième voie narrative qui pourrait un peu mieux marcher empiriquement?
Alors effectivement, ça fait partie aussi des éléments qu'on a pu analyser dans l'analyse de discours et des articles donc de presse qu'on a pu regarder. On voit effectivement qu'au début, quand on parle santé-climat, effectivement, on a une tonalité qui est assez alarmiste. Et je pense qu'effectivement, il y a quelque chose d'assez effrayant. Hein. Les impacts sanitaires du changement climatique sont très graves et sont très marqués. Et c'est vrai aussi que quand il s'agit du climat, le scientifique est parfois perçu aussi comme celui qui apporte sans cesse les mauvaises nouvelles, qui prescrit des comportements, voire qui indique des choses qui pourraient nous laisser penser qu'on est jugé. Or, dès que la parole scientifique, et qui est relayée donc par les journalistes, est reçue comme une parole morale, elle va perdre une partie de sa capacité à convaincre. Et on voit très bien que progressivement, dans les analyses aussi de perception, quand on parle de manière plus positive des enjeux, là, il y a un levier d'engagement qui s'ouvre et qui se met en place. Et ce qui est très intéressant avec l'argument de la santé, c'est justement qu'on peut ici activer des éléments positifs. On parle notamment des co-bénéfices. Donc ce qui est, pour résumer Très simplement, ce qui est bon pour le climat est aussi bon pour la santé, et respectivement, ce qui est bon pour la santé est bon pour le climat. Je vais expliquer ça en donnant quelques exemples. Par exemple, la mobilité active, le fait de marcher, de pédaler, va avoir un impact immédiat et scientifiquement prouvé sur la réduction d'un certain nombre de maladies, les maladies cardiovasculaires, les cancers, le diabète, etc. Mais ça va avoir aussi un impact positif sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc ici, on a quelque chose qui est tout à fait, je dirais, positif à un double niveau. Et ça, ce sont des arguments qu'on peut mettre en évidence et que les journalistes aujourd'hui mettent de plus en plus en évidence. Ce qui est intéressant avec l'argument de la santé, c'est que c'est quelque chose qui nous concerne en propre, qui nous concerne directement et qui a un impact, je dirais, sociétal global. Quand on parle des impacts positifs, par exemple, de la mobilité active, on sait que si... il y a des études, notamment développées par Kevin Jean, qui montrent que une heure et demie de vélo par semaine, ça permet de réduire de 10% la mortalité, toutes causes confondues. Et que si en France, on augmentait la marche et le vélo, on pourrait éviter 10 000 morts prématurées par an. Et aussi, ça représente des économies. Ça représenterait à peu près 34 milliards d'euros. Donc, parce que les maladies chroniques, c'est une charge lourde pour la société. Les traitements contre le diabète, etc., c'est aussi très coûteux. Donc, il y a toute une série d'éléments qu'on peut mobiliser et qui peuvent être intéressants aussi, qui peuvent être une autre manière de quelque part de communiquer.
Je voulais revenir par rapport à vous, Monsieur Ramu, par rapport à vous êtes penché énormément sur la question de l'enfance et notamment de l'apprentissage de l'enfance et toute son interaction. Et donc, comme on se voit maintenant, il y a une énorme formation à faire des enfants par rapport à leur sensibilisation, par rapport à donc, leur esprit critique vis-à-vis des informations qu'ils reçoivent, et notamment, comme on mettait, avec des informations qui arrivent et donc ils sont capables de remettre les choses en question. Mais il s'avère que parfois, à cause des réseaux sociaux et des sortes, on pourrait parler quasiment d'endoctrinement ou à cause peut-être des effets des écrans, je sais que vous êtes aussi penché sur la question, certains ne sont pas aussi sensibilisés par rapport à tout ça. Est-ce qu'il existerait un moyen de rattraper, les personnes qui n'ont pas remettre en question, des personnes qui vont remettre justement en question peut-être la science et qui vont absolument pas, prendre les informations à gauche et à droite et donc en faire leur propre avis, mais justement au contraire vont agir du fait que j'ai raison parce que je l'ai vu sur une vidéo. Est-ce qu'il existe un moyen de rattraper toutes ces personnes qui donc ont un avis aussi tranché de nos jours?
Bon, faire changer les gens d'avis, c'est difficile. Je suis pas sûr d'avoir une recette miracle. J'aurais envie de revenir un petit peu sur le sujet précédent, sur la question de finalement qui était celle des changements de comportement. On fait face à des risques importants, mais on se rend compte qu'une partie de la population n'a pas forcément envie de réagir dans la direction voulue. Et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Et effectivement, ce que vous souleviez, c'est que dans les discours publics sur le sujet, il y a des discours qui semblent ne pas bien marcher, en fait. Et là, pour le coup, mes collègues qui travaillent en analyse du comportement ont mis à jour un certain nombre de leviers, certains qui marchent, certains qui marchent moins bien. Donc, ce qui a l'air de ne pas avoir de très bons effets, c'est effectivement une forme d'exagération des risques ou en tout cas de mettre trop en relief les risques uniquement, parce que là ça induit un risque de paralysie finalement. Les gens se sentent impuissants face à l'ampleur de la catastrophe et du coup bah, ils se disent bon bah voilà, si c'est foutu, qu'est-ce que je peux faire moi à ma petite échelle, c'est pas la peine que je fasse un effort, ça va n'avoir aucun impact. Et un autre type de discours qui marche pas très bien non plus, c'est la culpabilisation qui est aussi courante et qui revient à dire aux gens, ben voilà, c'est en partie de votre faute parce que c'est vos actions, c'est votre surconsommation, etc. Et en quelque sorte, ben, les catastrophes qui vous pendonnaient, ben, vous allez payer pour vos péchés. Parfois, les discours vont un peu dans ce sens. Hein. Et donc ça conduit les gens finalement à se mettre en retrait et à refuser ce genre de discours qui a des implications inconfortables. Donc voilà, il y a tout un champ de recherche sur comment communiquer au public et proposer des politiques publiques qui vont avoir un impact efficace sur les changements de comportement. Donc, par exemple, pas seulement mettre en relief les risques, mais ce qui peut être fait concrètement pour aller dans la bonne direction et montrer ce qui a déjà été fait par le passé et qui a marché. Hein, on a déjà diminué l'impact carbone de la France, mais encore faut-il le savoir, encore faut-il savoir comment on l'a fait et voir que ben, voilà, il y a des choses qui ont été faites déjà, c'est possible, ça marche et on peut continuer dans cette direction, même si évidemment c'est compliqué, etc. Un autre ingrédient qui marche bien, c'est la conformité sociale. Les gens n'ont pas envie de changer de comportement, surtout si c'est coûteux de changer de comportement, s'ils ont l'impression qu'ils vont changer tout seuls alors que les autres ne font pas l'effort. Et donc leur montrer que, ben, en fait, regardez vos voisins, ils sont 60% à faire tel type à recycler leurs emballages, par exemple, etc. Montrer que, ben, y a déjà plein de gens autour d'eux qui font des efforts. Ça, cette simple information, c'est de nature à motiver plus les gens à faire eux-mêmes des efforts. Donc voilà, je pense que c'est important de prêter attention à comment on transmet ces discours, comment on transmet les préconisations et comment on va guider les politiques publiques. Il ne suffit pas juste de faire des lois ou de publier des prescriptions pour que les gens changent de comportement. J'ai quelques collègues qui ont écrit des livres assez intéressants sur le sujet. Il y a un livre de Coralie Chevalier et Mathieu Perrona qui s'appelle « Homo sapiens dans la cité », qui est sur l'efficacité des politiques publiques en général à chaque fois qu'on vise des changements de comportement, avec des exemples sur le climat. Il y a un livre tout récent publié par Mélusine Boonfaller de Sciences Po. Je ne sais plus quel est le titre de son livre, mais voilà, il a été publié dans les deux mois précédents, donc on peut facilement le retrouver. Et puis plus spécifiquement sur l'environnement, il y a le livre de Hannah Ritchie, qui s'appelait « Not the end of the world », traduit en français par « Première génération », alors qui n'est pas tellement sur les changements de comportement, mais qui est plutôt sur l'état des lieux environnemental et les mesures pour améliorer les choses, qui est aussi voilà, très, très ancré dans les données et qui fournit quelques perspectives positives aussi. Donc voilà, il y a des leviers. Effectivement, la manière dont on communique les choses, ça, c'est important. Et après, pour les gens qui ont des opinions très tranchées, pour revenir à votre dernière question, là, honnêtement, j'ai un peu moins de billes, parce que c'est vrai que, bon, moi, je communique pas sur le sujet du climat, qui est pas du tout ma sphère d'expertise, mais ce que je constate, c'est qu'en général, on arrive à avoir un impact sur les opinions des gens, mais en général, c'est chez les gens qui n'ont pas déjà des opinions très tranchées. Ceux qui sont déjà retranchés dans un camp avec des opinions très tranchées, en général, j'ai même pas d'espoir de les faire bouger. Peut-être y a des moyens. En tout cas, ce qui est clair, c'est que la confrontation directe, dire aux gens qu'ils ont tort, qu'ils connaissent pas les données, ça marche pas très bien pour faire changer d'avis. Bon, ce que là, à nouveau, je répète ce que disent certains collègues. Ce qui marche mieux, c'est d'y aller plutôt par des méthodes de type entretien épistémique, de discuter avec les gens de pourquoi ils croient ce qu'ils croient, quelles sont les données qui les conduisent à croire ce qu'ils croient, et essayer de bien comprendre leur position, d'où ils viennent, qu'est-ce qui les a conduits à telle position, etc. Et puis, petit à petit, de mettre en doute certains des éléments qui les ont conduits à certaines opinions, etc., mais d'une manière très subtile. Le problème, c'est que voilà, il faudrait faire des entretiens un par un avec, euh, avec, avec tous les gens dans cette situation. Donc c'est pas, il n'y a pas de solution très facile et économique, on va dire.
Mais vous semblez dire, donc je reviens à quelque chose que vous avez évoqué au début, que l'inertie individuelle de chacun, bon là ce serait plus dans le cadre des actions individuelles menées contre le réchauffement, enfin le réchauffement, la crise écologique en général, ça serait plutôt du fait d'une certaine impuissance ressentie. Et vous ne pensez pas que ça serait, pour certains, ça pourrait être du déni volontaire, parce que les conséquences de la crise écologique se mesurent moins bien à l'échelle individuelle que celle de la santé, par exemple.
Oui, non, c'est sûr qu'il y a des gens qui nient le changement climatique ou qui n'en ont pas conscience. Et dans ce cas, évidemment, pour ceux qui sont dans cette position-là, bah oui, c'est un frein au changement puisqu'ils ne voient pas la nécessité même du changement. Et donc là, bah voilà, ceux-là, il va falloir arriver à leur fournir un petit peu plus d'informations factuelles sur ces sujets-là. Mais il y a un risque qu'elles soient complètement rejetées, parce que la raison pour laquelle ils sont dans ces opinions, ce n'est pas parce qu'ils manquent d'informations factuelles, c'est parce qu'adhérer à ces opinions correspond à une affiliation à un groupe, en fait. Et donc ça, ils ne vont pas forcément vouloir y renoncer. Mais bon, cela dit, le problème, c'est pas que les gens qui croient pas au changement climatique, c'est aussi tous ceux qui y croient mais qui savent pas quoi faire, ou pour qui c'est juste coûteux de changer ses habitudes. Y a rien de pire que les habitudes. Les habitudes, on les a parce que ça nous économise des ressources cognitives, et donc on les acquiert vite, et une fois qu'on les a acquises, bah, c'est très dur d'en changer.
Existe-t-il pas des moyens, en tout cas plutôt lents, pour changer ses habitudes cognitives, puisque on peut voir, on peut chercher toujours des outils pour sensibiliser en tout cas les personnes, et on se dit que tous les jours on utilise énormément tout ce qui est de technologie, donc que ce soit avec nos smartphones ou avec les télévisions. Est-ce qu'il n'existe pas un moyen donc de tous les jours, comme on est tous les jours abattu par la quantité d'informations qu'on a et qu'on reçoit, est-ce qu'il n'existerait pas un moyen donc, de glisser par hasard de temps en temps des petites informations qui permettraient de sensibiliser au fur et à mesure? Est-ce que c'est une méthode douce, ou est-ce qu'on a vu que la méthode violente ne marche absolument pas? Ça braque les gens sur leur propre position et ils se protègent. Est-ce que vous pensez donc que cette méthode finalement un peu douce et qui est, certaines fois d'ailleurs, on peut le voir parce qu'elle est très mal vue par rapport à de nombreux autres sujets, puisque c'est ce qui permet notamment de transformer l'opinion publique sur des sujets qui sont très sensibles parfois. Est-ce que c'est une méthode qui vous semble en tout cas justifiée, ou est-ce qu'elle peut se faire?
Disons méthode douce, je ne sais pas. De toute façon, les informations sont pleines d'informations climatiques quasiment tous les jours. On ne va pas les masquer non plus. Donc je ne sais pas s'il faut diminuer ce type d'informations. Simplement, elles ne sont pas suffisantes. Il faut surtout fournir aux gens des leviers beaucoup plus concrets, de choses qu'ils peuvent faire, qui ne sont pas si difficiles, et de moyens de les faire, et d'informations sur le fait que d'autres les font déjà, donc pour activer la conformité sociale. Et après, bon, ce que montre la psychologie, c'est que bon, le changement de comportement, ce n'est pas facile. L'information ne suffit pas. Il ne suffit pas que je sache ce qu'il faut faire pour que je me mette à le faire tout d'un coup. Il y a vraiment un frein à l'action. Et donc, en fait, c'est un peu tautologique ce que je vais dire, mais c'est par le comportement lui-même qu'on change les habitudes. C'est-à-dire, si une fois on prend le vélo pour aller au travail, eh ben ça va être plus facile de le faire une deuxième fois. Si une fois on trie un emballage, ben ça va être plus facile la deuxième fois. Et donc, si on arrive à mettre les gens dans des situations où ils font l'expérience des gestes qu'on veut promouvoir, ils en font l'expérience un certain nombre de fois, ben voilà, ils commencent à activer ce genre de comportement, et ça va être plus facile, ben finalement, de continuer sur cette lancée que juste de leur dire ce qu'il faudrait faire. Donc ça veut dire qu'il faut peut-être réfléchir en termes de ben voilà, qu'est-ce qu'on peut lancer comme initiative qui mette le pied à l'étrier de la plupart des gens.
Oui. Oui, je vous rejoins tout à fait, et articuler aussi toujours un bénéfice, parce que je pense que Voilà, l'idée de, d'y trouver un bénéfice, un gain, c'est aussi quelque chose de très moteur et mobilisateur.
Donc des courses groupées, alors, comment dirais-je,
et lancement. Mais c'est vrai que le bénéfice, c'est très important. Personne ne va agir contre ses propres intérêts. Hein. Donc il faut qu'on s'y retrouve à la fin. Et on sait bien qu'on va s'y retrouver à très très long terme si on arrive à atténuer le changement climatique. Mais évidemment, ça c'est à très long terme et c'est un peu plus difficile à prendre en compte dans nos calculs bénéfices-coûts personnels.
Vous avez parlé des bulles d'influence sociale, notamment. En psychologie, y aurait-il une technique peut-être pour réussir à, en tout cas, essayer d'accéder aux gens qui sont inclus dans des sphères d'influence très fortes?
Ouais, c'est pas simple ça, parce que c'est un enfermement qui est volontaire, c'est-à-dire que tout le monde a accès à toutes les informations possibles dans toutes les directions. C'est pas qu'il y a des gens qui sont enfermés dans une sphère dont ils peuvent pas sortir. Ils y restent parce qu'ils souhaitent y rester. Donc ouais, c'est pas évident. En fait, disons, bon, à nouveau, c'est pas ma spécialité, mais j'ai des collègues qui réfléchissent à ça et qui disent que bon, les bulles s'entretiennent d'autant plus facilement qu'on est en ligne, effectivement, et qu'on choisit le lieu où on va discuter, le forum, etc. Et dans la vraie vie, bah, ça peut être pareil si on ne rencontre qu'un groupe de personnes sélectionnées qui appartiennent au même parti ou au même groupe militant, etc., qui ont les mêmes opinions. Et donc, ce qui est important pour essayer de casser les polarisations extrêmes, bah, c'est de pousser les gens qui sont de pôles opposés à se rencontrer, en fait, à parler entre eux, pas forcément des sujets qui fâchent, mais déjà à se rendre compte que, bah, en fait, les gens du camp opposé, ils sont pas forcément ni idiots, ni méchants, ni intrinsèquement mauvais. C'est des gens comme nous. Et que, en fait, voilà, ils ont des intérêts proches de nous sur plein de sujets.
Et des préoccupations communes.
Et des préoccupations communes. Et donc, en fait, on peut discuter avec eux sur plein de sujets et même tomber d'accord. Et en discutant, ben voilà, on peut en venir à essayer de comprendre, ben, OK, ces gens-là, ils ont un point de vue situé sur le monde. Voilà, ils appartiennent à un milieu différent, etc., qui font qu'ils ont adhéré à certaines opinions. Mais on peut comprendre aussi leur point de vue en discutant avec eux, et en faisant ça, bah, finalement, on peut réduire la distance et la polarisation. Après, voilà, faire changer les gens d'opinion, c'est un objectif qui est très lointain, mais déjà, diminuer un peu la polarisation, ça pourrait aider.
Justement, je voudrais revenir par rapport à ce qu'on a dit tout au début, la première étude qu'on a présentée, par rapport à la littératie qui augmente, ou la numératie, et le fait que, finalement, contrairement à ce qu'on pense, ça nous retranche dans nos positions. Est-ce que vous avez observé quelque chose de semblable, en tout cas au sein de vos différentes communautés scientifiques, puisque c'est quelque chose qui paraît tout à fait étrange pour la plupart des personnes, puisqu'on se dit qu'on s'appuie pour se remettre en question sur plein de ressources différentes. Et comment est-ce que ça s'expliquerait par rapport à cela ?
Honnêtement, j'aurais besoin de regarder d'un peu plus près l'article de Kahn que vous avez montré, parce qu'effectivement, le résultat paradoxal qui est que quand la numératie et la littératie scientifique augmentent, les positions se polarisent plus. Et comment étaient définis les deux groupes aussi? Comme je ne connais pas cette étude, je vais avoir du mal à la commenter. C'est possible que c'est un résultat qui semble paradoxal, mais aussi parce qu'il a été obtenu dans des conditions assez particulières. Donc je ne sais pas à quel point on peut le généraliser. J'aurais quand même pas de tendance à dire qu'il faut renoncer à augmenter la numératie et la littératie des gens.
Oui, bien sûr, parce que ça peut être aussi une étude qui est entièrement réalisée aux États-Unis, donc avec des avis déjà qui sont déjà très tranchés, puisqu'on connaît la polarisation de la société là-bas. Et je voudrais justement revenir par rapport aux biais d'information et quand on parlait notamment de tout ce qui devrait être rationnel, mais on joue énormément sur l'émotionnel de nos jours. Comment est-ce que quelqu'un peut de nos jours, parce que l'émotionnel est vraiment
parfois à court terme. On peut l'observer donc qu'une nouvelle qui va provoquer énormément d'émotions parmi les personnes va être oubliée le lendemain ou quelques jours après. Comment concrétiser avec le dérèglement climatique des informations ou dérèglement climatique ou en général pour la science, comment montrer aux personnes que c'est quelque chose qui est dans le long terme, et d'ailleurs parce que c'est quelque chose qui est paradoxalement très flou pour eux de regarder très loin. Comment donc concrétiser tout cela sans s'appuyer sur, sans rester sur l'émotionnel qui sera très éphémère. Par exemple, quand on va montrer différents ouragans ou tornades qui vont affecter directement des personnes qui sont à le bout de la planète, et nous, dans notre fauteuil ou derrière la télé, on regarde ça et le lendemain, ça sera oublié. Comment appliquer l'information finalement dans le temps?
Oui, c'est pas tellement que c'est oublié, c'est que c'est pas proportionnel à l'ampleur de la catastrophe, si vous voulez. On a de l'empathie pour les autres êtres humains, donc si je vois quelqu'un qui se fait mal devant moi, je vais un peu souffrir avec lui et je vais avoir envie de l'aider. Mais s'il y a 10 000 personnes qui sont mortes dans une catastrophe à l'autre bout du monde, je vais pas souffrir 10 000 fois plus que si c'en est une devant moi. Je vais souffrir sans doute peut-être moins. Donc c'est vrai que ça reste des choses qui sont assez abstraites. Après, il ne faut pas forcément renoncer aux émotions, parce que les émotions, c'est ça qui nous permet d'accorder de la valeur à certaines choses plus qu'à d'autres, et qui peut aussi nous motiver à passer à l'action. Mais c'est compliqué l'utilisation des émotions, parce que voilà, c'est pas proportionnel, ça peut se retourner dans l'autre sens, etc. Donc c'est pour ça qu'on a aussi besoin de guider les gens par une analyse plus rationnelle des faits.
Je tout à fait. Quand on parle donc de littérature, par rapport à toute la littérature en général scientifique, on parle aussi de l'engagement des scientifiques dans les médias, avec des lettres ouvertes ou parfois aussi des participations dans les tribunes. Vous avez peut-être parfois participé à cela. Et est-ce que vous voyez donc ce phénomène jouer un rôle prépondérant, en tout cas dans l'opinion publique, et est-ce que cela a énormément d'effet du fait que des personnes se disent que ce n'est pas un scientifique dans son laboratoire avec sa blouse qui parle, mais bien un être humain qui va avec d'autres parler dans une tribune en alignant les faits, donc par cet engagement, est-ce qu'il va montrer une prise, une crédibilité qui va donc être plus conséquente, ou est-ce tout l'inverse, un emploi totalement contre-productif, puisqu'on se dit que cette personne se politise, et comme vous le savez, que le lien avec le politique parfois peut provoquer une réticence quand on voit ce sont finalement les mêmes qui vont défendre leurs intérêts et non pas l'intérêt de tout le monde.
Alors, je dirais pas que le scientifique qui écrit une tribune se politise. En fait, je pense que voilà, il fait entendre ses travaux de recherche, mais je pense qu'il faut distinguer. Il y a effectivement certains scientifiques qui se politisent, qui deviennent militants, et il y a c'est effectivement de plus en plus courant, mais je pense qu'il faut pouvoir distinguer les différents types de chercheurs et de scientifiques.
Ouais, il y a toute une gradation. Hein. C'est un petit peu compliqué. En vérité, je ne sais pas quel est l'impact de ces tribunes signées ou écrites par des scientifiques sur le grand public. Est-ce que ça a tendance à plus convaincre le public qu'un article journalistique ou pas? J'en suis pas sûr. Enfin, j'en sais rien. c'est pas totalement clair pour moi. Et c'est vrai qu'il peut tout à fait y avoir de la part du public des soupçons du fait que des scientifiques qui tiennent telle ou telle position le font plus par engagement politique que par rigueur scientifique. Mais après il y a quand même toute une gamme de tribunes différentes qui peuvent être plus ou moins politiques. Et si d'un point de vue scientifique je constate que tel type de psychothérapie est moins efficace que tel autre dans les essais cliniques, Si je le communique comme ça, bah c'est purement factuel, voilà, basé sur les résultats des essais cliniques. Le jour où j'en ai marre que les patients en psychiatrie soient mal pris en charge et que j'écris une tribune pour dire il faut arrêter de prendre en charge tel type de psychothérapie pour favoriser tel autre ou mieux former les psychologues, bon, bah là je préconise une action politique dont on pourrait dire qu'elle découle directement de l'analyse factuelle. Mais bon, voilà, j'ai déjà franchi une frontière qui... Je ne sais pas quel impact ça a.
J'aimerais juste revenir très brièvement sur la polarisation des différents profils. Une question assez simple. Est-ce que vous savez s'il existe un profil cognitif particulier, un peu type des personnes qui seraient susceptibles de changer d'avis face à de bons arguments et si oui, qu'est-ce qui les caractérise?
C'est pas simple comme question. C'est clair que c'est décrit. Hein. On a des questionnaires d'attitude épistémique qui permettent de dire, ben voilà, il y a des gens qui sont plus prêts, qui se basent plus sur leurs données, d'autres qui sur des données factuelles, d'autres qui se basent plus sur des intuitions, des gens qui sont plus prêts à changer d'avis, des gens qui vont être ancrés dans leurs opinions. Mais c'est purement descriptif, finalement. Est-ce que ça reflète des types cognitifs différents? Alors oui, après, on peut dire qu'il y a certains traits de personnalité qui sont vaguement corrélés avec ça. C'est compliqué parce que c'est quand même multidimensionnel. Il y a beaucoup de travaux en psychologie politique qui disent, bon, voilà, les gens de droite sont plutôt un peu comme ci, les gens de gauche sont plutôt un peu comme ça, mais ça reste des... C'est pas des différences très, très grandes non plus. Enfin, faut pas en faire des caricatures très, très stéréotypées. Hein. Ouais, il y a des traits de personnalité. Par exemple, dans les 5 grands traits de personnalité, il y a un trait d'ouverture à la nouveauté, qui est certainement corrélé au fait d'être plus prêt à changer d'avis que le contraire. Bon, voilà, après, ces traits de personnalité, ils peuvent être aussi malléables hein, dans une certaine mesure, donc ce n'est pas forcément le destin gravé dans le marbre.
Et donc, avant de potentiellement passer aux questions publiques dans quelques minutes, j'aurais une question qui, forcément, est typiquement posée à énormément de scientifiques, dont je pense à chaque fois qu'il y a une interview ou des discussions, par rapport à l'intelligence artificielle, forcément. Est-ce qu'elle bouleverse la production scientifique et la communication scientifique? Est-ce qu'elle a déjà un impact considérable, justement, dans la crédibilité, ou est-ce qu'elle pose une perte de crédibilité, et son utilisation, en tout cas, pour la sensibilisation du public, et donc de communiquer la science? Est-ce que c'est quelque chose qui va favoriser ou défavoriser l'information relayée? Est-ce que vous avez déjà pu voir ça?
Bah, moi, j'aurais envie de dire, c'est comme tous les outils. Hein. On peut s'en servir dans un sens comme dans l'autre, pour le meilleur et pour le pire. Et je pense qu'on le voit déjà avec l'IA. Hein. Enfin, je pense que moi et comme plein d'autres collègues, on commence déjà à l'utiliser pour gagner en efficacité sur certains traitements de texte, par exemple, sur des traductions, sur du brainstorming. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire avec l'IA qui sont intéressantes et qui nous font gagner du temps, de l'efficacité et même améliorer la qualité de certaines choses qu'on fait. Et puis, ça peut aussi produire des choses de très, très faible qualité. On en a plein d'exemples. Ça peut produire de la désinformation à la chaîne. Enfin bon, voilà, donc tout dépend de comment on l'utilise. Et donc voilà, ça fait partie de ces grands changements technologiques qui ouvrent de très très grands espaces de potentialité, voilà, pour le pire comme pour le meilleur.
Et justement, par rapport à tout ce qui est création de fake news et tout ça, est-ce que il y a d'un point de vue donc de l'acceptation d'informations des biais donc qui changent? Est-ce que des personnes vont du fait qu'elles sont en plus enclines aux fake news, est-ce qu'elles vont plus se remettre en question tout cela? Je tourne en fait par rapport au fait que en revenant notamment par rapport à l'IA générative qui crée une grande partie des fake news. Est-ce que c'est je vais refaire la question encore plus simple.
du fait de l'arrivée des idées génératives et donc de l'augmentation des fake news, qui sont en grande partie liées à, donc, à l'utilisation par des personnes qui veulent relayer leurs propres informations, etc. Est-ce que vous voyez du fait de l'arrivée... comment devrais-je dire ça? Oui, est-ce que de faire de la communication scientifique, ce qui est une perte de crédibilité qui est considérable par rapport à l'arrivée de toutes ces fake news, notamment générées par l'IA générative, j'y arrive, est-ce que vous la voyez au quotidien? Est-ce que celle-ci vous pose problème, ou est-ce que c'est quelque chose qui ne vous atteint absolument pas et qui atteint finalement que les personnes qui restent sur les réseaux sociaux et qui vont peut-être dans les médias qui les relaient? Est-ce qu'il y a un moyen de lutter par rapport à tout cela?
Bah, disons, dans un sens, le problème n'est pas nouveau, parce que les fausses nouvelles, ça a toujours existé, hein, et est rédigé par des humains. Ce que change l'IA, surtout, à mon sens, c'est le fait que ça puisse être industrialisé maintenant, c'est-à-dire que les gens qui ont intérêt à propager des fake news peuvent, en quelques clics, voilà, le démultiplier, et donc on peut inonder le marché de l'information avec soit de la fausse nouvelle, soit avec du texte de faible qualité, mal vérifié, etc. Et du coup, ça crée une disproportion, finalement, dans ce à quoi le public peut avoir accès, sachant que les gens qui veulent faire un travail sérieux, ils vont pas justement avoir cette démarche d'inonder le marché de l'information. Ils vont produire leurs articles bien consciencieusement, et ça sera un article dans un océan d'autres trucs. Donc je pense que moi c'est plutôt ça qui m'inquiète finalement. C'est cette possibilité on facilite le travail des acteurs mal intentionnés finalement. Beaucoup plus que celui des acteurs bien intentionnés, qui de toute façon vont devoir toujours prendre le temps de vérifier ce qu'a écrit un LLM.
Oui, finalement, la notion de Naomi Oreskes sur les marchands de doute qui arrivent donc en masse. Je vous remercie par rapport à ça. Ok, bah, écoutez, on va passer finalement maintenant aux questions du public. Donc si jamais vous avez des questions typiquement à poser, n'hésitez pas. On va faire circuler un micro.
Merci beaucoup. Madame Depoux, j'avais une question, puisque vous travaillez plus un rapport entre les liens entre santé et climat. Parce qu'on sait qu'il me semblait qu'au moment de l'accord de Paris, dans les années qui ont suivi, il y avait quand même un discours assez consensuel sur la nécessité d'agir. Et là, depuis quelques années, avec les changements géopolitiques, les changements économiques, etc., on voit qu'on pourrait avoir l'impression, en tout cas dans le discours médiatique, qu'il y a une sorte de backlash sur le discours climatique. Est-ce que vous, sur le terrain, dans vos études, vous le vivez au quotidien, ou est-ce que c'est plus une impression, un ressenti qui est donné par le discours qui se construit par les médias?
Alors effectivement, c'est un discours qui se construit par les médias et qui est aussi, enfin, circule et se développe par les réseaux sociaux. Maintenant, c'est vrai que la recherche, elle continue à se développer et il y a une recherche très très robuste et je trouve que la tendance, elle est quand même plutôt à renforcer les travaux sur la transition, sur les enjeux écologiques, malgré effectivement ce backlash ambiant, mais je dirais qui est plus qui circule plus dans la sphère publique.
D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions plus générales?
C'est également pour vous, Madame Depoux, et aussi sur les médias. Vous avez parlé aussi tous les deux du fait que le public pouvait se sentir plus ou moins concerné en fonction de si le dégât était climatique, loin de lui, etc. Récemment, il y a eu des inondations, etc., et donc les médias en ont forcément parlé. Est-ce que vous pensez que quand les médias en parlent, il faudrait qu'il y ait plus de voix de scientifiques, parce que parfois les discours des scientifiques peuvent être un petit peu compliqués à comprendre pour le grand public, mais aussi, est-ce qu'il faudrait qu'à chaque fois qu'ils parlent de ce genre de problème, donc les inondations qui découlent en un sens du dérèglement climatique, est-ce qu'il faudrait aussi qu'ils précisent que ça parle du dérèglement climatique, etc. Je ne sais pas si c'est clair.
Si, si, c'est très clair. Je pense qu'effectivement, les scientifiques n'ont pas forcément l'habitude de venir sur les plateaux télé, à la radio. C'est pas forcément dans les habitudes. Et on n'est d'ailleurs pas formés, en fait, pour ça. Donc il y a peut-être aussi un enjeu à prendre aussi cette habitude, à avoir aussi quelques réflexes pour pouvoir aussi présenter à d'autres publics les recherches et effectivement donner les informations qui vont peut-être avoir un poids en termes de conviction plus important auprès de des auditeurs.
Sachant qu'on ne peut pas obliger tous les scientifiques à le faire, et c'est sans doute pas souhaitable. Hein, on n'a pas tous ni le même intérêt, ni les mêmes aptitudes à parler au public, mais ce qui est important, c'est qu'il y ait suffisamment de scientifiques qui soient, ne serait-ce que consultés, en fait, par les médias. Oui. Parce que qu'ils soient présents à la télé ou à la radio, c'est assez un peu plus exigeant comme implication, mais qu'au moins les journalistes aient le réflexe un peu plus systématiquement sur des sujets scientifiques, de consulter des chercheurs pour au moins faire vérifier des faits de base, etc., même si à la fin le chercheur n'est pas forcément même nommé dans l'article, les journalistes devraient s'imposer peut-être un peu plus systématiquement ce devoir de vérification. Et sur la plupart des sujets, en astrophysique, en général, c'est le cas, vous voyez. Mais il y a des sujets qui sont moins perçus comme scientifiques par les journalistes. Alors, c'est un peu vrai dans le domaine de l'environnement. Ça allait encore plus dans le domaine de la psychologie ou des sciences humaines et sociales, qui est mon problème à moi.
Bonsoir. Merci pour cette table ronde. J'aurais une question pour tous les deux, je pense. Par rapport au changement des habitudes du grand public, où vous parliez que en fait, c'est par en vivant une expérience et en leur expliquant les gains et les bénéfices qu'on pouvait leur apporter en fait, les premières billes pour pouvoir avoir de nouvelles habitudes. Moi, je voulais savoir s'il y avait des initiatives, plutôt en termes d'événements, où les scientifiques vont rencontrer le grand public, par exemple avec des associations. Et quel est le type? Et si oui, en fait, comment mettre en place? On sait que en fait, l'organisation d'événements de ce type a un coût, que les associations n'ont pas forcément aussi énormément de ressources financières par rapport à ça. Donc, est-ce qu'il existe des financements pour pouvoir mettre à bien associations scientifiques à destination du grand public pour organiser des expériences de ce type? Et comment les mettre en place? Voilà.
Pour mettre en place quel type d'expérience, pardon ?
Des expériences, en fait, pour faire vivre au grand public des changements, des habitudes, pour les initier, en fait, dans ce type d'initiative, en leur expliquant, en fait, les gains et les bénéfices.
Mmh. Je pense que les territoires, les municipalités sont quand même... pour certaines, en tout cas, cherchent à justement jouer ce rôle-là d'articulation. Moi, j'ai déjà participé pour la ville de Paris à des initiatives, par exemple Paris à 50 degrés, et qui était une initiative qui mettait tous les acteurs d'un arrondissement à l'épreuve de ce scénario, et donc il y avait aussi des scientifiques, des chercheurs qui étaient présents, notamment pour observer et après analyser. Donc je pense que ce type d'initiative là existe et que les territoires sont assez demandeur et à l'initiative, en fait, pour créer des ponts.
Okay. Merci.
Et après, en termes de coûts et bénéfices, évidemment, le problème, c'est que les coûts, ils sont immédiats et les bénéfices, ils sont à long terme. Et donc, ça veut dire qu'il faut que les pouvoirs publics organisent aussi un système dans lequel les gens vont voir les bénéfices aussi à court terme. Et ça, voilà, ça ne peut être que quelque chose d'organisé. Donc, par exemple, si on veut que les gens utilisent moins d'énergie fossile et plus d'électricité décarbonée, il faut qu'ils envoient le bénéfice tout de suite. Donc, par exemple, c'est pour ça que tous les économistes disent depuis longtemps que la taxe carbone, c'est une bonne solution, parce que ça va augmenter le coût de toutes les énergies fossiles et comparativement, les autres vont paraître moins chères. Alors évidemment, on ne peut pas tout résoudre par des taxes, et c'est pour ça qu'elle est aussi mal perçue, mais symétriquement, à chaque fois qu'on subventionne les voitures électriques, les pompes à chaleur, au détriment des chaudières à gaz, etc., à nouveau, on permet aux gens de faire le bon choix en voyant leurs bénéfices à court terme, et pas seulement en payant des coûts. Donc tout ça, ça nécessite d'être organisé. Parce que c'est peut-être un truc qu'on n'a pas évoqué jusque-là, mais c'est important de faire changer les comportements des gens, mais en même temps, tout ne repose pas que sur des choix individuels. Il y a aussi des aspects structurels qui doivent être gérés au niveau gouvernemental pour produire finalement toute une architecture de choix qui va conduire les citoyens à faire naturellement et dans leur propre intérêt les bons choix.
Je viens justement rebondir sur exactement ce que vous venez de dire, Monsieur Camus. Depuis le début de la conférence, de la table ronde, on parle de faire prendre conscience aux gens de choses, on parle de les éduquer, on parle de leur faire changer leurs habitudes, mais peut-être que c'est parce que je viens des SHS, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'on leur donne quand même énormément d'agentivité. Et du coup, en fait, ça me fait me poser cette question de savoir est-ce que les scientifiques qui décident de s'engager, ou même ceux qui décident pas forcément de s'engager, mais ceux qui s'adressent au public, donc que ce soit de leur propre chef ou via des journalistes, est-ce qu'il faut qu'ils s'adressent plus à un niveau individuel, selon vous, ou est-ce qu'il faut plutôt qu'ils cherchent à faire évoluer ces structures en fait, sociales qui déterminent dans une certaine manière les comportements individuels ? Donc, est-ce qu'il faut plutôt qu'ils parlent aux décideurs politiques à différents niveaux pour faire changer différentes choses, pas forcément des politiques directement liées au climat, mais qui ont parfois des conséquences secondaires sur le climat. Par exemple, on sait que quand on est en situation de précarité, c'est beaucoup plus compliqué de s'engager climatiquement parlant. Est-ce que ça aussi, c'est pas des choses sur lesquelles les scientifiques doivent jouer ? Bon, alors, bien sûr, un climatologue ne devient pas économiste du jour au lendemain, mais du coup, pour cristalliser un peu la question, est-ce que vous pensez qu'il faut plutôt s'adresser aux individus ou aux décideurs ?
C'est pas l'un ou l'autre, en fait. Il faut s'intéresser, je dirais, à toutes les échelles, parce que tous les efforts vont compter. Et effectivement, tout ne repose pas sur l'individu. Il y a une dimension collective qui est très importante avec des instruments politiques, des réglementations, etc. Mais je pense que tous les niveaux sont importants.
Ouais, pareil. Il n'y a pas à choisir. On doit parler aux citoyens, on doit parler aussi aux politiques parce que chacun agit à son niveau et on a besoin des actions à tous les niveaux.
Ouais, je me permets de poursuivre s'il n'y a pas de questions. Est-ce que vous pensez que le discours doit être le même, du coup, si on s'adresse autant aux politiciens qu'aux citoyens, ou est-ce que c'est un discours différent, peut-être, je ne sais pas, un discours plus pour faire comprendre les décisions aux citoyens et peut-être un discours pour faire agir les politiciens, ou est-ce que vous pensez que c'est... on ratisse large, il faut que tout le monde ait envie d'agir quoi qu'il arrive, et ça passe pour une communication agissante, entre guillemets, pour les citoyens aussi.
Je pense qu'il faut surtout que les propositions soient concrètes, que la personne à laquelle on s'adresse puissent trouver aussi des ressources et une manière d'agir. Donc, le discours, il va forcément s'adapter en fonction de l'interlocuteur et des propositions qu'on peut lui faire.
Oui, je dirais il y a deux niveaux de discours. Le discours sur les questions factuelles, l'information scientifique, ça c'est la même qui vaut pour les citoyens et les décideurs. Par contre, le discours de type préconisation, bah oui, il faut qu'il s'adapte à sa cible. Si on parle aux citoyens, il faut leur dire ce qu'eux, ils peuvent faire de manière individuelle. Si on parle aux politiques, on a intérêt à leur parler de ce qu'ils peuvent conduire en termes de politique publique.
Vous avez tous deux mentionné l'impasse des discours alarmistes et ce recours au négatif quand on parle du problème climatique. Pensez-vous qu'on fait fausse route en dénonçant le greenwashing qui s'apparente donc à un discours négatif et comment articuler la promotion à la fois d'imaginaire positif lié à la transition écologique, tout en dénonçant le greenwashing, qui est aujourd'hui l'écrasante majorité des discours dits positifs sur la transition écologique.
Ouais, disons, d'abord, il ne faut pas forcément renoncer à tout discours alarmiste. Si les problèmes sont graves, il faut quand même dire qu'ils sont graves. C'est juste qu'il ne faut pas, les présenter d'une manière qui donne un sentiment d'impuissance complète. Donc il faut fournir à côté quand même un certain nombre de solutions, de leviers de changement. Sinon ça ne va pas marcher. Après, le greenwashing, je suppose que quand il est vraiment flagrant, oui, il n'y a pas de raison de ne pas le dénoncer. Mais peut-être... Peut-être c'est bien aussi de montrer les vraies actions qui ne sont pas du greenwashing, qui sont des engagements concrets, qui ont des effets positifs. Donc, en fait, c'est ça. De manière générale, dans les médias, on a toujours un biais de négativité. On parle des trucs qui ne marchent pas, des trains qui arrivent en retard et pas de ceux qui arrivent à l'heure, etc. Et donc, je pense que c'est sans doute vrai dans tout discours. Un discours qui n'est focalisé que sur l'aspect négatif des choses... et qui oublie de mentionner ce qui est positif, du coup, il va sans doute être moins efficace. Donc je pense que c'est sans doute ça qu'il faut faire, c'est d'arriver à rééquilibrer les discours et de montrer pas que les entreprises qui se remplissent les poches en récupérant des subventions pour des actions qui n'ont aucun intérêt, mais de montrer aussi celles qui agissent dans la bonne direction.
Et il y en a beaucoup.
Très bien. Eh bien, je vous remercie. Et puis, merci d'avoir été présents tous ce soir. Je vous remercie, vous, d'avoir été présents, donc vous deux. Merci pour ces échanges. Et merci aussi à l'initiative d'Avenir Commun Durable qui nous soutient dans ce cycle, à nouveau, donc, de table ronde. Merci donc à Benjamin et à Jean-Marie Tarascon pour son parrainage. Et Benjamin, toi, pour toute l'organisation et toute, sans toi, enfin, toutes ces tables rondes n'auraient pas lieu. Et merci à toi, Zoé. Donc, nous avons donc animé cette table ce soir. Et merci à tous ceux qui sont derrière aussi pour nous aider pour les questions et préparations. Nous avons donc deux tables rondes qui arrivent donc, chaque semaine pendant jusqu'à juin. Et la suivante aura lieu donc, le 13 mai, ici même, donc à 18h30. Et elle sera donc cette fois-ci sur la fracture sanitaire face au changement climatique. Je vous remercie encore d'être venu ce soir.
Collège de France. Le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-2-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.